Chapitre 7e, le signe au mur. Il éclata de rire tout à coup. « Ne croyez pas, mon cher Courville, que vous allez sortir comme ça d'ici, de chez moi ?»« Comment sortir comme ça? Que voulez-vous dire ?»« Dans cette tenue, ce serait la pire folie. Je ne comprends pas. »« Vous ne vous souvenez donc pas des précautions que nous avons dû prendre pour rentrer ici ?»« En effet. » Martin Huma disparut par une portière. Au bout de quelques instants, il reparut, tenant en ses bras un paquet de vêtements. « Nous sommes à peu près de la même taille, » fit-il. « Vous allez revêtir ce costume pendant que je passerai celui-ci. » Le déguisement fut promptement accompli. Il n'était rien moins que compliqué. Il se composait d'une grande blouse bleue, qui nous descendait par-dessus nos habits jusqu'à mi-jambe, et d'une casquette noire avec des lettres gaz. Martin Huma me donna une petite boîte de zinc et lui se chargea d'un pliant et d'un énorme soufflet. À ce moment, une objection se présenta à mon esprit. Puisque Martin Huma croyait que cet homme brun l'espionnait, puisqu'il avait la certitude qu'on l'épiait et qu'il n'en devinait pas la raison, pourquoi n'arrêterait-il pas ce promeneur qui, tout à l'heure, nous avait alarmés? Je lui fis part de ma pensée. « Vous avez essayé, lui dis-je, de prendre dans une de vos voitures l'homme brun de la rue d'Amsterdam et cet homme vous a échappé. C'est vrai, et puis, dans cette rue, devant cette porte, se trouve un homme brun. Que vous croyez un compère, un associé du premier, remplissant contre vous la même surveillance mystérieuse. Si vous l'arrêtiez, vous l'interrogeriez, vous sauriez enfin à quoi vous en tenir. Pourquoi ne le faites-vous pas ?« Mon cher Courville, me dit Martin Huma, cette question est celle qui viendrait à l'esprit de tout le monde, connaissant notre aventure. Cependant, cher ami, sans reproche, vous devriez savoir que si je n'arrête pas cet homme, c'est que je ne dois pas le faire. » « Pardonnez-moi de vous avoir posé cette question oiseuse. Vous avez bien fait. Laissez-moi vous répondre. Ces deux rencontres, en apparence identiques, sont au fond très différentes. L'homme au taxi, je pouvais sans scrupule le prendre. Pourquoi ? Parce qu'en montant dans son taxi, il n'avait pas donné d'adresse au chauffeur, mais seulement promis un bon pourboire à condition de me suivre, de ne pas me perdre. J'avais donc le droit de demander à cet homme pourquoi il me suivait et ce qu'il me voulait. Très juste. Mais aujourd'hui, ce nouvel espion est dans la rue. La rue est à tout le monde. Comment prouver qu'il m'épie ? Il m'est, croyez-le bien, très facile de le faire prendre, mais comment justifier sa capture ? Si cet homme est, comme je le présume, un étranger, il en appellera d'autant plus fort à son consul qu'il se sentira en faute, sans que je puisse le préciser. Cela me mettrait une vilaine affaire, compliquée, inutile, sur les bras. De plus, je ferai connaître à ceux pour qui cet homme travaille précisément ce qu'il faut qu'ils ignorent. D'abord, que je demeure effectivement dans cette rue. Ensuite, que je redoute leur surveillance. Vous avez raison. Comme je me dirigeais vers la porte de l'atelier, donnant sur le jardin par laquelle nous étions entrés, Martin Huma me cria du fond de la pièce. « Où allez-vous ? Ne sortons-nous pas ? Sans doute. Mais depuis quand avez-vous vu un homme rentrer comme peintre chez lui, en sortir en gazier ? Venez donc par ici. » Il ne faut pas qu'on nous voie partir. Je suivis donc Martin Huma. Au fond de l'atelier se trouvait un escalier en bois énorme, massif, jolie pièce artistique, qui conduisait à une galerie formant, grâce à un jeu de tenture, une sorte de petite chambre. Nous entrâmes dans cette petite chambre. Ses murs étaient tendus d'une sorte de papier gris-bleu, imitant la peluche. À ces murs se trouvaient, comme dans tous les logis de peintres, accrochés des modelages en plâtre, des torches, des bras. Sur les consoles, on voyait les écorchés classiques, puis, un peu partout, des tableaux, des dessins, des gravures et des panoplies d'armes, d'objets divers, exotiques, des bibelots de toutes sortes. Dans un coin, un divan-lit. Au-dessus de ce divan-lit, trois tableaux encadrés, pour ainsi dire, par des sabres, des épées, des vieux fusils et des pipes à longs tuyaux. Martin Huma s'approcha de la muraille, passa sa main sous un des tableaux, pressa, et je vis les tableaux, les armes, les pipes s'avancer doucement en avant de la paroi les supportant et tournant comme s'ils avaient été cloués à une porte qui s'ouvrait. Une ouverture se montra. « Passez, » me dit Martin Huma, « montez sur le lit. » J'obéis. Il s'engagea aussi après moi dans l'ouverture et derrière lui ramena le panneau qui nous avait livré passage. Je compris la raison de ces armes longues, de ces immenses tuyaux de pipes. Les rainures de la porte secrète correspondaient avec ses lignes, ses ombres, impossible de les découvrir, même en y regardant de près. Nous nous trouvions maintenant dans une sorte de tambour où nous avions du mal à tenir, nous deux. « Baissez-vous, » me dit Martin Dumas. « Pliez-vous, pour ainsi dire, en deux. » J'exécutai aussitôt cette manœuvre. Martin Dumas me poussa encore de la main pour m'aplatir davantage et il me dit « Regardez maintenant au-dessus de votre tête. » Lui aussi s'était accroupi. Au-dessus de nous, trois lames de sabre venaient de surgir de la muraille et se tenaient à hauteur du ventre d'un homme, faisant un triangle de pointes assez espacées pour ne pas transpercer, assez rapprochées pour ne pas permettre un mouvement, pour paralyser, pour arrêter toute tentative de fuite. « Qui entrerait ici, me dit Martin Dumas, sans connaître le secret, tomberait, comme vous vous en doutez, en un piège dont il ne pourrait s'échapper. En même temps que ces lames apparaissent, une sonnerie avertit mon fidèle valet de chambre qui accourrait à la première alarme cueillir l'indiscret. L'entrée de l'atelier est aussi bien gardée. Qui pénétrerait dans le jardin n'en sortirait pas sans ma permission. Martin Dumas appuya sur un bouton, les lames disparurent dans la muraille et une porte s'ouvrit en face de nous. « Passez sans crainte, me dit Martin Dumas. Il n'y a plus de sabre, mais faites bien attention. Posez bien le pied sur les échelons. » Par cette porte, guère plus large qu'un vasistas, je m'engageais. La recommandation était bonne, d'autant que les prétendus échelons étaient constitués par trois ou quatre caisses en bois, mises comme au rebut dans un angle de la pièce dans laquelle nous pénétrions. « C'est l'escalier, » fit Martin Dumas. « Il ne manque pas de pittoresque. » Nous nous trouvions dans une pièce mansardée, encombrée de vieilles malles, de meubles cassés, de linge en tas, avec quelques loques pendues à des ficelles le long de ce grenier où l'on ne semblait pas venir souvent. Je remarquai toutefois que la porte était renforcée de ce côté par des barres de fer. Martin Dumas appuya d'une certaine façon sur le loquet et la porte, fort épaisse, s'ouvrit facilement. Le détective prêta l'oreille, écouta quelques secondes, puis me dit « Nous pouvons aller sans crainte. Vous avez toujours votre boîte ? Je l'ai. Descendons. » L'escalier dans lequel nous nous engageâmes était celui d'une de ces vieilles maisons de Passy qu'on avait essayé d'aménager autant que possible selon le confort moderne. Cet escalier de service avait été certainement ajouté depuis quelques années seulement, quand on y installa le gaz et l'électricité, pour lutter avec les nouvelles bâtisses, écrasant de leur masse les anciens jolis jardins de ce coin qui jadis fut la campagne des Parisiens. Peu après, nous nous engagions dans le couloir au bout duquel s'ouvrait la loge du concierge. Sur le pas de sa porte, le concierge se tenait, fumant une pipe. Je saisis un coup d'œil échangé entre lui et Martin Dumas, et je compris aussitôt que cet homme faisait partie du personnel de mon guide dans cette équipée. « Alors ça va, le gaz ?» demanda le concierge. « Ça commence, » répondit Martin Dumas. « Mais il va falloir souffler ferme. »« Oui, il y a de l'eau dans les tuyaux. Tout le monde se plaint, surtout de ce côté. C'est de là que ça doit venir. » Et le concierge indiquait du doigt un des points de la rue. « Nous allons voir, » fit Martin Dumas. Nous voici dans la rue, mon ami et moi, absolument comme de paisibles gaziers en quête du coffret dans lequel il fallait souffler. Je ne reconnaissais pas cette rue. Nous descendîmes ainsi la rue, puis nous nous engageâmes dans une seconde rue que celle-ci coupait. Alors je m'y retrouvais. Cette rue était celle par laquelle nous étions venus tout à l'heure. Donc, la maison de Martin Dumas avait plusieurs issues, ou plutôt... De l'atelier, on pouvait passer par un autre chemin. « Attention, » me dit Martin Dumas, « soyons gaziers pour tout de bon. Ça y est. Bon, traversons la rue. » Nous voilà sur le trottoir opposé. Un coffret de gaz s'y trouvait. Martin Dumas défait le pliant, s'assoit dessus. Il me prend ma boîte, l'ouvre, en tire des clés, et fait jouer la petite plaque de fonte qui sert de porte au coffret de gaz. Il amorça le bout du tuyau de caoutchouc qui pendait au bec du soufflet, dans un des trous du coffret, avec, selon son habitude, une conscience extrême. On eût vraiment dit que cet homme n'avait jamais fait autre chose de sa vie. Alors il me passa le soufflet et me dit « Tenez, mon cher, asseyez-vous sur le pliant et manœuvrez le soufflet. Mais tout en soufflant, tournez vos regards un peu plus bas, dans la rue, à gauche. Ah, je vois, notre homme, lui-même, il a l'air quelque peu inquiet. Contrarié, en effet. Il ne trouve pas ce qu'il voudrait. Il ne voit pas venir ce qu'il attend. » Martin Dumas murmura, avec un pli au milieu du front qui rapprochait ses deux sourcils froncés. « Dans tout ceci, ce qui m'inquiète, ce qui me préoccupe, c'est cette surveillance dont je suis l'objet, cet espionnage qui m'entoure, car on ne peut plus douter à présent. Je suis filé. C'est exact. que nous arrivions à déjouer cette filature ? Ce sera facile, je l'espère, mais je vous le disais, en ce qui me cause un étonnement et une sérieuse anxiété, c'est qu'on soit parvenu à découvrir cette rue, à savoir que par ici j'ai un refuge, une retraite, je croyais la chose absolument secrète. Tout en parlant, il s'était assis sur ses talons, appuyant le dos au mur, et allumait une cigarette. Certes, je me disais qu'en nous voyant ainsi, paisibles, soufflant dans le tuyau de gaz et grillant des cigarettes, personne, même les gens qui nous cherchaient, ne pouvaient percer le mystère que cachaient notre blouse bleue et notre casquette. Nul ne pouvait supposer ce que faisaient ces deux braves hommes en voyant avec tant de conscience de l'air dans le branchement de gaz. Tout à coup, Martin Huma tressaillit et fit entendre à mi-voix une exclamation d'étonnement. « Ah, diable, du nouveau !» Je regardais aussi sous la visière de ma casquette. Devant l'homme brun, se trouvant encore sur le trottoir, un autre homme, qui montait la rue, s'arrêta. « Vous le reconnaissez ?» me demanda Martin Huma. « Parfaitement, c'est l'homme de la rue d'Amsterdam. C'est lui. C'est bien lui. Regardez, il s'arrête devant celui qui était en faction et lui demande du feu. Je vois. Or, jamais un gentleman n'avise un autre gentleman pour lui demander du feu. Donc c'est une manœuvre, d'ailleurs assez habile pour parler à quelqu'un sans donner l'éveil. Bon, voilà notre homme qui a allumé sa cigarette. Il salue le gentleman obligeant et reprend sa route, ayant appris ce qu'il venait demander à l'homme en faction. Ça doit être cela, en effet. L'autre est parti, sans doute peu content, quoique fumant sa cigarette. Il a dû laisser à celui-ci un nouveau mot d'ordre, une nouvelle consigne. Comme Martin Huma parlait, l'homme qui se trouvait sur le trottoir, ayant l'air d'attendre simplement quelqu'un, faisant les 100 pas, les mains derrière le dos, d'une allure tranquille, jeta une dernière fois un coup d'œil en arrière, puis il fouilla dans la poche de son gilet. « Qu'est-ce qu'il fait ?» se demanda Martin Huma. L'homme s'était approché du mur de la maison qui se trouvait précisément en face de celle de Martin Huma, et sur le mur, à même, il gratta à plusieurs coups une allumette. Puis il alluma une nouvelle cigarette. Martin Huma, qui ne perdait rien de cette scène rapide, eut un sourire. « Ces gens-là sont malins, » fit-il, « mais leur ruse laisse trop voir la ficelle. Je n'ai pas bien compris leur tactique. Bien clair, cependant, je leur ai échappé. Mais celui qui me filait, pour se retrouver dans la souricière qu'il établira demain ou ce soir, pour aussi faciliter la tâche d'un collègue, a besoin de marquer la place où, pour la dernière fois, il a pu m'apercevoir. Très juste. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Prendre le numéro des maisons n'est pas suffisant. Il faut un point de repère plus complet. Notre homme, en ayant l'air de gratter une allumette sur un mur, ce qu'également ne fait pour ainsi dire jamais un gentleman, tout en ayant l'air de gratter une allumette au mur, dis-je, notre homme vient de faire sur ce mur une marque que nous allons trouver dans un moment. Martin Huma fit encore manœuvrer mon soufflet le temps qu'il jugea nécessaire pour permettre au mystérieux espion de s'éloigner. Puis il prit ma place, reprit le coffret à gaz en ordre, le referma. « Voilà des abonnés, » fit-il en souriant, « qui ne pourront pas se plaindre de la compagnie. » Nous rangeâmes les outils dans ma boîte, que je suspendis à mon épaule gauche. Martin Huma, sans hâte, prit son pliant, ramassa son soufflet, qu'il mit sur son épaule droite, et nous voilà en route, sans nous presser. Nous franchissions la chaussée pour gagner le trottoir, comme si nous allions souffler dans de nouveaux tuyaux engorgés d'air. Quelques pas encore, et Martin Huma m'arrêtait par le bras. « C'est là, » fit-il, « ne vous retournez pas encore. Ayons l'air de regarder la maison d'en face. » « C'est bien ce que je pensais, mon cher Courville. Je ne me trompais pas. Il y a sur le mur un signe. Une croix, 2 points. Une croix, 2 points, un X. Oui, vous allez les voir. Tracés à la craie à hauteur du coude. Vous pouvez vous retourner maintenant. » En effet, il y avait sur le mur, tracés fortement sur le fond gris, les signes qu'annonçait Martin Huma. Ces signes étaient ainsi disposés, 2 barres se coupant en croix Saint-André et 2 points en vis-à-vis entre les 2 branches. Tiret, X, tiret. Effaçons-les. Vous allez voir, mon cher Courville, comment on efface sans se servir des mains, sans donner l'éveil. Martin Huma alors me désigna du doigt quelque chose aux étages de la maison voisine. Pour mieux me montrer ce qu'il me disait d'apercevoir et qui n'existait pas, il se pencha en arrière et frottait son épaule, son bras contre le mur, effaçait avec la manche de sa côte bleue les signes mystérieux. « Ça y est, » dit-il, « c'est parti. S'ils ont vraiment besoin de ces signes pour s'y retrouver dans leur filature, ce sera un travail à refaire. » La croix et les 2 points avaient en effet absolument disparu. Maintenant, me dit Martin Numa, en riant, que nous avons travaillé comme de bras avec consciencieux gazier, soyons gaziers jusqu'au bout. Allons boire un verre chez le mastroquet voisin. On ne peut s'imaginer ce que souffler dans les tuyaux donne soif.